Bazin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle du ciment, un matériau de construction hâtive ou de destruction massive. En tout cas, la consommation de ciment par habitant est devenue un indice de développement comme un autre. 115 kilos en moyenne en Afrique, quand la moyenne mondiale tourne autour de 513 kilos par tête d'habitant. Le ciment, c'est devenu finalement la réponse à la croissance urbaine la plus rapide du monde et alimente toute l'économie du bâtiment. Entre Accra et Lagos, le fameux corridor urbain de 500 kilomètres où vivent plus de 30 millions d'habitants, et en 2050 ce sera 50 millions, eh bien le ciment fait toujours rêver. Quatre murs pour y poser une tôle, c'est déjà beaucoup. Ajouter un étage à sa maison pour le louer, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dénoncer à la fois les malfaçons, l'effondrement de bâtiments, la chaleur piégée dans le béton et ses effets destructeurs pour l'environnement, notamment l'assèchement des carrières de sable. Alors comment concilier construction hâtive sans destruction massive? On attend vos témoignages, surtout si vous êtes en train de construire votre maison. Vous pouvez nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On a des invités qui connaissent tout sur le sujet, qui pourront répondre à vos questions. Armel Choplin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes urbaniste à l'Université de Genève, spécialiste de l'habitat en Afrique, et vous publiez un bouquin passionnant, La vie du ciment en Afrique, matière grise de l'urbain. Vous êtes en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de la radio-télévision suisse. Également avec nous, une ingénieure, Madiana Azoumé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieure en bâtiment durable, spécialiste des climats tropicaux, vous êtes fondatrice de l'agence d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'éco-construction Cube. Et nous serons également en ligne tout à l'heure avec l'ingénieur sénégalais Doudou Dem, qui est créateur de Élémentaire, qui est une entreprise de construction qui utilise de la terre et qui est basée à Dakar. Voilà, je vous rappelle notre numéro pour nous joindre sur WhatsApp, 33 7 64 45 51
41. RFI.
7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, j'adore l'émission.
Je suis RFI 787.
Nous sommes ensemble et nous devons marcher ensemble.
Et c'est vous qui faites l'émission, hein, les voisins, les voisines. Je vous la rappelle comme tous les jours. Donc évidemment, on a besoin de vos points de vue, de vos témoignages, de vos questions aussi. Aujourd'hui, on parle construction. Hein. On a les mains dans le ciment ou presque. Armel Choplin, si on reprend cet exemple de la plus longue chaîne de villes d'Afrique, en gros de Port Harcourt au Nigeria à Abidjan, le long du golfe de Guinée, à quoi ça pourrait ressembler d'ici 2050, c'est-à-dire 2050, c'est dans 30 ans, hein, c'est demain, avec l'utilisation actuelle du béton?
Ben, ce à quoi ça risque de ressembler, c'est certainement une vaste coulée de béton quasiment continue, effectivement, de Abidjan à Lagos, voire même pour Harcourt, avec en fait des espaces verts qui sont en train de disparaître. Et il y a quasiment plus d'interstices, c'est-à-dire de zones rurales, et on a une espèce de de ligne continue urbanisée. Alors c'est pas pour autant des villes, mais en tout cas ça donne l'impression que la ville, ou en tout cas l'urbain, ne s'arrête jamais. Il y a des constructions de part et d'autre. Pour les gens qui ont déjà fait, je ne sais pas, Lagos, Accra, ben ouais, c'est continu quasiment, voilà, sur 500 kilomètres le long de la côte, qui en plus a un espace très fragile.
La ville ne s'arrête jamais, d'autant plus qu'elle est très horizontale finalement, Madiana Azoumé.
Oui, effectivement, on a cet étalement urbain qui est très caractéristique de nos villes africaines. Il faut dire qu'aujourd'hui, on parle de l'Afrique, mais 80% de ce qui est construit sur terre est construit en béton, parce que le béton est un matériau d'abord extraordinaire, donc qui a permis de la créativité, qui est utilisée de manière très facile pour sa mise en œuvre, qui a des caractéristiques, on va en parler tout à l'heure, qui sont quand même extraordinaires pour la construction. Donc, cette facilité de mise en œuvre explique
son
succès, sa popularité, ouais, c'est ça.
Alors, pour arriver à préfigurer l'urbanisation et la manière d'habiter sur le continent africain de demain, il faut déjà comprendre, Armel Choplin, et vous êtes attaché à ça dans votre livre, la vie d'un sac de ciment, avant d'arriver au béton. Par quoi ça commence finalement?
Oui, alors j'ai eu la chance de vivre 3 ans à Cotonou ces dernières années et en fait j'étais assez intriguée par ces sacs de ciment qu'on voyait avant jour et nuit de part et d'autre des routes hein, sur les bas-côtés. Et j'ai commencé à me dire que j'allais suivre un sac de ciment. Donc je suis allée dans les carrières en fait de calcaire parce que pour produire du ciment il faut d'abord du calcaire. Et il y en a quelques sillons calcaires en Afrique, pas beaucoup hein, par rapport à l'Europe, mais il y en a, et notamment par exemple au nord de Lagos, au nord de Cotonou, il y a un sillon calcaire qui est là. Et donc il y a des sacs de ciment qui sont produits à partir de ce calcaire local, donc fabriqués sur place. Alors il faut quelques adjuvants, etc. Mais il faut aussi beaucoup d'énergie. Mmh. Oui, et puis il faut surtout du gypse.
Ah, on a eu une petite coupure. Il faut du calcaire, il faut de l'argile, ça donne du clinker, il faut du gravier, il faut du sable. Hein. On va peut-être continuer l'explication avec vous, Madiana Azou, mais pour fabriquer du béton, du sable, d'ailleurs, du sable qu'on ne peut plus exploiter, qu'on ne peut plus aller chercher dans la mer. Maintenant, le sable marin est interdit d'exploitation. On va le chercher dans des lagunes, dans des rivières, hein, c'est ça ?
Tout à fait, dans des lagunes, dans des rivières, dans des carrières aussi. Et on a un gros souci en Afrique de l'Ouest sur d'érosion qui est notamment liée au prélèvement du sable. Donc ça devient problématique, cette question du sable, sachant que c'est un matériau qui est essentiel pour la réalisation du béton.
Hein, tout ça, ça donne du béton. Une fois qu'on a assemblé toutes ces matières premières que je viens de citer, ça donne du béton qui est entièrement made in Africa aujourd'hui.
Oui, le béton, c'est un matériau local. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est en même temps un matériau qui a été importé. Qui est arrivé avec la colonisation, mais aujourd'hui c'est un matériau local parce que les usines sont fabriquées, les usines sont implantées sur le continent.
Armelle Choplin, quels sont les enjeux économiques du ciment aujourd'hui ?
Alors, ce qui est, en fait, quand on dit que c'est un matériau local, c'est là où il y a une petite supercherie. En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ajoute pour fabriquer du ciment qui viennent en fait de l'extérieur, du petcoke, du gypse qui peut venir, voilà, du Maroc, d'Espagne, voire même d'Indonésie. Alors, en tout cas, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des cimenteries intégrées, c'est-à-dire qui va produire du ciment à partir du calcaire local, qui ont été ouvertes ces 20 dernières années. Et c'est ça la grosse différence avec avant. Avant, on importait le clinker, donc cette matière grise, ça venait souvent d'Europe, et donc c'était associé, si vous voulez, le ciment est associé même à la colonisation. C'est les colons blancs qui ont amené ça en Afrique. Et maintenant, en fait, c'est un matériau qui est considéré comme un matériau local. Mmh. Et l'une des figures, en fait, qui vend ce ciment local et qui en fait le fer de lance, c'est Aliko Dangote qui dit « Je produis un ciment africain, 100% africain ».
L'homme d'affaires nigérian qui est devenu l'homme le plus riche du continent et qui a commencé par vendre, il y a longtemps, 3 camions de ciment.
C'est ça. Au début, il vendait des pierres pour son oncle. Et puis voilà, aujourd'hui, il a ouvert les premières cimenteries qui produisent, enfin, ou en tout cas, il a multiplié le nombre de cimenteries qui produisent du ciment localement. Et du coup, on a une espèce d'identification, parfois même des assez nationalistes hein, au ciment. On dit on produit le ciment du pays. Par exemple, Sim Togo dit voilà, acheter le ciment du pays. Quand on se balade d'un pays à l'autre, tout le monde essaye de vendre le ciment du pays. Donc il y a quelque chose, une de ces fiertés pour dire voilà, en Afrique aussi, on est capable de produire des matériaux localement, et les industries du ciment font partie de la fleur de lance de l'économie locale.
Ouais. Et de la réussite, c'est aussi la réussite individuelle. Faire construire sur sa parcelle, c'est un symbole de réussite. D'autant plus si on parvient à faire construire une villa extrêmement chambrée, pour reprendre une expression béninoise, togolaise.
Oui, alors et puis même Burkinabé a des expressions voilà, avec beaucoup de chambres, extrêmement chambrées, pour dire que voilà, on a vraiment réussi. C'est un matériau d'échange, de relations sociales. Moi, j'ai été très étonnée de voir des femmes qui savaient construire, parce que même ne sachant pas lire sur les sacs de ciment, et Madiana l'a dit, c'est très facile en fait. Il n'y a pas besoin d'énergie déjà, il faut de l'eau, un peu de sable, au mieux des graviers, et puis on fait un mur. Et les femmes qui connaissent les dosages, parce qu'il y a les pictogrammes sur les sacs qui disent que voilà, il faut une brouette de sable, d'eau de ciment et puis de l'eau et le tour est joué avec cette idée que tout est simple. Et il y a cette image de la réussite qui passe par le ciment. On est moderne, on a une maison en dur, qui peut résister aux pluies aussi, c'est important. Et de ce fait, l'émergence même de l'Afrique passerait par le béton. Voilà, souvent on a des images qui disent voilà, allez investir en Afrique, et on voit des buildings avec des grues derrière qui montrent que voilà, le développement, c'est forcément la ville bétonnée.
Y compris d'ailleurs une modernité qui passe par la gouvernance, par le béton, parce que c'est l'action politique la plus visible quand on parvient à faire construire des routes, des bâtiments, etc. Des latrines.
Oui, souvent, en fait, un mandat politique, on sait, c'est 5 ans, 4 ans. Donc, la seule chose qu'on peut faire rapidement pour montrer qu'on est un élu fort, qu'on est puissant, c'est de faire sortir de terre des buildings. Et après, les gens disent, voilà, il est fort, il a réussi à faire quelque chose. Donc, c'est vrai que ça se voit vite, rapidement. Et ça accompagne aussi ces discours sur l'Afrique qui émerge, sur ces villes, c'est là que va se créer les smart cities, etc. Et du coup, la modernité de l'Afrique passerait aussi beaucoup par le ciment, et les liens politiques avec le milieu des affaires et du BTP sont bien connus, donc on sait à quel point c'est important. Quand le bâtiment va, tout va.
Ouais. Et les spéculations immobilières qui vont évidemment bon train. L'aide au développement aussi a besoin de ce béton pour montrer son efficacité. On a beaucoup dit que, par exemple, les politiques d'éducation financées par l'aide au développement passaient par des constructions d'écoles, mais que derrière, il manquait les maîtres, par exemple, qu'il ne suffisait pas de quatre murs.
Oui, et puis la Banque mondiale a, dans les années, même en 2016, sorti un rapport en disant voilà, l'avenir de l'Afrique, c'est la construction, c'est l'industrie du ciment, donc a appuyé l'ouverture de cimenteries. Donc c'est là où on a un discours tout à fait compliqué, où on appuie une industrie dont on sait qu'elle est très polluante, et en même temps, et d'ailleurs les cimentiers jouent sur cette rhétorique en disant qu'ils apportent des toits aux gens et des murs.
Madiana Azoumé, vous nous disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est un matériau, on peut tout faire avec, le ciment, et a fortiori quand ça devient du béton, c'est durable, c'est résistant, c'est assez simple d'utilisation, et pourtant, combien de bâtiments qui s'effondrent, alors parfois parce qu'ils sont construits en zone inondable ou en zone qui s'effondre, c'est plus un problème de glissement de terrain, mais tout de même, combien de constructions, de malfaçons aussi, à cause ou par le ciment et le béton?
Effectivement, mais ces malfaçons ne sont pas liées au béton et à ses capacités qui sont réellement très bonnes. Elles sont liées au manque de savoir-faire, au manque de compétences de ceux qui mettent en œuvre ce matériau. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique subsaharienne, il y a beaucoup d'autoconstruction, que ce sont beaucoup les maçons qui fabriquent les bâtiments. Et à partir de là, quand on sait que ce sont des professions qui ne sont pas réellement formées, en tout cas pas de manière formelle, c'est une formation qui se fait par apprentissage de maître à ouvrier, etc. Il n'y a pas de circuit, il y en a de plus en plus, mais il n'y en a pas beaucoup, de circuit formel de formation de ceux qui sont les principaux acteurs de la construction en Afrique. Donc c'est sûr que parfois il y a des planchers qui s'écroulent. Oui.
Ouais, combien? Oui. Et parfois la maison toute entière.
Et parfois la maison toute entière.
Avec des victimes. Les permis de construire aujourd'hui, ça rentre dans combien de pourcents des constructions, Madiana Azoumé?
Alors les permis de construire, c'est moins de 20% des bâtiments construits
et sur le continent africain.
En tout cas en Afrique subsaharienne, et sachant que ces 20% sont surtout en ville. En milieu rural, c'est pratiquement 0%.
On parle du ciment aujourd'hui. Charmoc nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Charmoc.
Bonjour Emmanuel, bonjour le voisin.
Vous êtes à Brazzaville, vous êtes au Congo. Vous avez construit votre maison en ciment, c'est ça?
C'est ça, Emmanuel.
À Imfondo.
J'ai fait le choix, oui. Oui, j'ai fait le choix de construire la maison avec du ciment parce qu'elle est longue. La durée est vraiment longue.
Oui.
Construire une maison avec des briques cuites est moins cher qu'avec des briques faites avec du ciment. Car une brique cuite coûte 100 francs, tandis que la brique faite avec du ciment coûterait 500.
Alors, ce que vous appelez brique cuite, c'est une brique en terre cuite, c'est bien ça? Que vous comparez au ciment. Ouais.
Oui, c'est une brique qu'on a faite avec l'argile.
Oui.
Et avec de l'argile. Or, le sac du ciment coûte 7 000, vous voyez. Donc, une brique qui est vendue à 500 francs, c'est parce que le ciment est vendu cher. Mmh.
Un sac de ciment coûte 7 000 francs CFA, c'est-à-dire c'est un sac de 50 kilos?
Oui, oui, Emmanuel.
Donc, ça fait à peu près 10 euros.
Oui, oui, exactement.
Donc, vous vous dites que le ciment coûte plus cher qu'une brique de terre cuite. Non, vous dites que c'est... Si, c'est ça. Vous dites que c'est plus cher, hein, le ciment.
Oui, puisque une brique cuite est vendue à 100 francs CFA. Tandis qu'une brique faite avec du ciment et du sable est vendue à 500 francs. Mmh. Vous voyez la différence.
Et pourquoi vous avez fait le choix du ciment?
Non, c'est parce que le ciment, avec de l'argile, la maison va durer. Il y a aussi la facilité avec du sable que l'on prend directement au bord de l'Ubangi, qui sera mélangé avec du sable pour fabriquer du mortier qui joindra les briques.
Le sable qui sera mélangé avec du ciment, vous voulez dire?
Oui, le sable et du ciment pour avoir du mortier pour joindre les briques, donc pour construire une maison.
D'accord, donc pour vous, le ciment est plus durable. Madiana Azoumé.
Alors, le ciment plus durable, le ciment est robuste. Enfin, le ciment, on parle du béton. Le béton est robuste, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la terre... Puisqu'il parle de la terre,
puisqu'il parle des briques de terre,
c'est un matériau qui est utilisé depuis 11 millénaires. Et il y a des bâtiments qui ont été construits depuis plusieurs siècles qui tiennent toujours. Donc, ce n'est pas vrai de dire que les constructions en terre ne sont pas solides, ne sont pas durables, en tout cas ne sont pas solides, puisque je pense qu'il parle de plus de solidité quand il parle de durabilité. Et seulement, il y a des règles, il y a des choses bien particulières quand on parle de construction en terre. Doudou va nous en parler tout à l'heure. Notamment, c'est vrai que la terre n'aime pas l'eau. Et donc, il y a deux règles essentielles quand on construit en terre. C'est, comme on dit... des bonnes bottes et un bon chapeau, c'est-à-dire que les fondations sont très importantes, la couverture est très importante.
Il ne faut pas que les briques prennent la pluie.
Il ne faut pas que les briques, Il ne faut pas que les briques prennent la pluie.
C'est toujours un problème de formation. On va en reparler effectivement tout à l'heure avec un ingénieur spécialiste des constructions en terre. Merci Charmoc de nous avoir appelé pour nous parler de votre choix de construction. Vous êtes nombreux à nous poser des questions. On va vous donner la parole tout à l'heure au 33 7 64 45 51 41. Armel Choplin, l'industrie du ciment fait, malgré son extrême maniabilité, bien que ça soit aujourd'hui l'image de l'urbanisation du continent africain, l'industrie du ciment fait l'objet d'attaques relativement récentes, mais bien présentes. Armel Choplin ? Ah, on a à nouveau perdu Armel Choplin. De l'Université de Genève. On essaye de la rappeler. Vous nous disiez, Madiana Azoumé, que le ciment aujourd'hui... Ah, voilà, Armel Choplin. Vous êtes bien en ligne avec nous, Armel Choplin ?
Oui, vous m'entendez ?
Oui, voilà. Je vous demandais si... Je vous parlais des...
Oui, j'ai entendu.
Oui, allez-y.
Oui. Oui, du coup, il y a des attaques qui sont menées contre le ciment, le tout béton. D'ailleurs, Madiana a écrit une très belle tribune pour en finir avec le tout béton, qui en fait rejoignent aussi des attaques et des dénonciations et des critiques qui sont formulées en Europe
En Europe. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est presque une cause commune. Il y a quelques années, voilà, il y a eu une espèce de fronde contre le plastique. Et maintenant, on est vraiment dans un moment où les gens s'interrogent sur pourquoi est-ce qu'on doit absolument construire en béton, pourquoi il n'y aurait pas d'autres alternatives. Alors en Afrique, c'est vrai que c'est un peu plus difficile.
Quelles sont les critiques là, qui émergent en fait? C'est quoi? C'est la pollution de l'air près des cimenteries, des révoltes de villageois, des révoltes dans des quartiers par exemple, Madiana Azoumé?
Alors, sur
mais
tout ce qui...
Il commence à y avoir des alternatives, en tout cas des choses qui peuvent être mises en place, mais ça demande aussi un changement de regard sur le matériau. Donc le béton n'est peut-être pas que le symbole de la réussite. On pourrait aussi imaginer de construire avec d'autres matériaux, mais qui, jusqu'à maintenant, ont une mauvaise image de marque. Par exemple, quand on pense bambou, bois, terre, les gens se disent « Ah, mais ça, c'est comme en brousse ». normalement, quand on est en ville, on ne construit pas avec ce type de matériaux. Donc, c'est tout un imaginaire qui est aussi à repenser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que le béton, le ciment, est beaucoup lié aussi au psychologique et au social.
Oui. Et revenons aux critiques qui sont faites, notamment dans les quartiers des cimenteries, Madiana Azoumé. On parle de pollution de l'air, par exemple, de pollution de l'eau aussi. Hein. On a vu des révoltes de villageois, je crois, au Nigeria, mais aussi au Bénin, pays dont vous êtes originaire, Madiana Azoumé.
Je sais qu'effectivement, il y a des soucis qui sont liés à l'environnement des cimenteries. J'ai pas réellement entendu parler des révoltes récentes, mais je sais qu'il y a des soucis, il y a des gros soucis de pollution de l'eau, de l'air dans l'environnement immédiat des cimenteries. Pour moi, le problème lié au béton, effectivement, il y a le problème environnemental, puisque c'est un matériau dont... C'est le principal. La fabrication du ciment est responsable de 7% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un gros émetteur de gaz à effet de serre.
Et il y a la problématique du sable. Qu'est-ce qu'on fera quand il n'y aura plus de sable ? Si on ne peut pas prendre le sable de la mer, qu'on prend des sables de lagunes, de rivières, qui d'ailleurs, à force de prendre du sable, ça cause des inondations. Hein. Les gens se plaignent, les riverains. Qu'est-ce qui se passera le jour où on ne pourra plus prendre ce sable ? Comment on va faire du béton, Madiana Azoumé ?
Ben justement, sans sable, il n'y a pas de béton.
Voilà.
Et donc, c'est pour ça qu'il faut... Et au-delà des problématiques environnementales, il y a également toute la question du confort thermique des usagers, enfin, de la chaleur dans les bâtiments en béton. Donc, il y a plusieurs raisons, on va dire, qui peuvent nous emmener à penser à des matériaux alternatifs. Pas pour éliminer le béton, puisque le béton reste un bon matériau, mais pour introduire des alternatives, introduire de la mixité dans le paysage.
Et bien, c'est toute la question qu'on pose hein, dans l'émission. Il ne s'agit pas de tuer le béton, bien évidemment. Comment concilier donc construction hâtive, hein, voulue par la croissance urbaine phénoménale du continent africain, et puis durabilité au sens environnemental du terme. On attend vos témoignages, on attend vos questions aussi, surtout si vous êtes en train de construire votre maison. On va parler de la chaleur aussi dans ces maisons en béton. Appelez-nous sur WhatsApp au 33 7 64 45 51 41.
D'un côté, si des femmes en Dieu. Non, lève-vous.
It's Kelpie Vibes.
D'un côté, si des femmes en Dieu. I know they sleep on the money. Who I be? Where make I no go find money? I know they send anybody. Me at the house who call on Jacko. Make you house who my luck. I know be your lord, I know be baller. Whoa, I'm a to baller fuck up. Me go show you my color. She want to pay me a lot baller. Give me gonga more, yeah, I want baller. They matter plenty, I know me only satan. Oh no no. Look and listen well. When I dey strive and I dey hustle, waiting I dey find Kaluba I dey find. When I dey move from place to place, waiting I dey find Nadi dollar. Don't do yes, 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 yes. And many people don't tell me no, 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 no. Money lati low, di don don. So they hear me up in my door, yeah. Is it because I they do I'm for love? If I get you cash, I go tell you love, papa. I go give you cash, I go be your sponsor. Money hear me up in my door, yeah. Is it because I they do I'm for love? If I get you money, you go know. Till I go out to that kingdom come. Because, that go there, that go there. See the fame on you. I know they sleep on the money. Who I be? Where make I no go fame on you? I know they send anybody. Me at the house who can't go.
C'est Burna Boy, Dangote, une chanson qui s'interroge sur la fortune de l'homme le plus riche du continent africain, Dangote, une chanson que vous citez dans votre livre d'ailleurs, Armel Choplin, oui. Vous avez publié La vie du ciment en Afrique.
Oui, j'aime bien cette chanson parce que quelque part, c'est une critique de Dangote dans le sens où il demande comment tu as pu devenir aussi riche dans un pays aussi pauvre. Et en fait, les critiques sont assez rares quand même sur voilà ces hommes d'affaires qui réussissent grâce au BTP et à la construction. Donc voilà, Burna Boy est un de ceux qui critiquent. Donc c'est intéressant d'avoir une critique venant du pays lui-même.
Qui n'a pas un point de vue sur le ciment, sur le continent africain. Moussa et Tanjamena au Tchad, il nous envoie ce message. J'ai opté pour les briques cuites pour la construction de ma maison. Si la maçonnerie est bien faite, la maison durera aussi longtemps qu'avec des briques de ciment. Le gros avantage, c'est que la température est moins élevée dans la maison avec les briques en terre cuite. C'est aussi sécurisant car les balles ne peuvent pas traverser les murs. Oui, c'est aussi une réalité pour certains dans certains pays. Mahamadou est à Bamako, au Mali. Mon père a construit sa maison en 98 en banco, sable pierreux, plus eau moulée en briques car c'est moins cher que le ciment. La maison est solide et durable dans le temps. Augustin est à Bukavu en RDC et il pose une question. Ma maison est construite en briques faites avec de la boue et du sable et une petite quantité de ciment. Combien d'années va vivre ma maison? Au bout de combien de temps dois-je la renouveler? Alors je vais vous poser la question à vous, Madiana Azoumé, puisque vous êtes un ingénieur en bâtiment durable, mais aussi à Doudou Dem qui vient de nous rejoindre au téléphone. Bonjour Doudou Dem.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes ingénieur créateur de Élémentaire, une entreprise de construction qui utilise de la terre et qui est basée à Dakar. La question d'Augustin à Bukavu, donc des briques faites avec de la boue, du sable et une petite quantité de ciment. Vous répondez quoi, Doudou Dem, sur cette durabilité?
Je pense que ça aurait été plus durable sans ciment. Parce que la notion de durabilité aussi, il faut penser à la fin de vie du bâtiment, et donc la terre, lorsqu'elle n'est pas mélangée à du ciment, va être encore plus durable parce que sera totalement réversible. On peut réutiliser la terre à l'infini. On va remettre de l'eau et on va pouvoir la réutiliser, remodeler la maison. Donc ça, c'est pas un souci.
La question d'Augustin, c'est justement combien d'années va vivre ma maison? Au bout de combien de temps je dois la renouveler? Parce que s'il faut refondre les briques de terre, par exemple...
C'est pas ce que j'ai dit. Non, en fait, sa maison, elle vivra autant de temps qu'il faudra. Je veux dire, tant qu'il n'y a pas de souci de sisme, de fondation, il n'y a pas de raison. Et qu'il n'y a pas de problème d'infiltration d'eau au niveau de la toiture. En fait, on considère qu'un bâtiment en terre, il faut juste se protéger au soubassement, donc de bonnes bottes et un bon chapeau. Donc un soubassement suffisamment élevé pour ne pas avoir les briques qui puissent stagner dans l'eau. Avoir une protection en tête des murs de façon pareille à ce qu'il n'y ait pas de stagnation d'eau. À partir de là, s'il n'y a pas de séisme, s'il n'y a pas de problème, on va dire, extraordinaire, le bâtiment tiendra toujours. Donc c'est ce qui arrive pour tous les bâtiments en terre qui sont depuis des siècles toujours en activité.
Mais alors pourquoi les constructions en terre ont une mauvaise image? Pas solide, pas durable?
Parce que justement, en fait, je pense que le béton a amené... cette facilité de mise en œuvre et aussi le fait que ça tient, visuellement, ça tient à l'eau. Effectivement, lorsque vous allez avoir de la pluie sur un bâtiment en ciment, vous n'aurez aucune dégradation visible. Tandis qu'un bâtiment en terre qui n'est pas bien protégé, et surtout s'il est totalement en terre, qui n'a pas de stabilisation en ciment, celui-là, effectivement, il va être beaucoup plus soumis. Il faut faire beaucoup plus attention à le protéger, protéger les murs de l'eau et du soleil. Donc, c'est au maximum. Donc, c'est ça l'idée. C'est qu'un bâtiment en terre, effectivement, on a cette idée qu'il va être moins durable, mais c'est toujours pareil. Ce n'est pas le matériau seulement qui va rendre la durabilité possible d'un bâtiment. C'est la conception. Ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que le matériau tout seul ne pourra jamais régler tous les problèmes. La conception va avec le matériau. Donc, pour rendre un bâtiment durable, la conception, le matériau vont permettre cette durabilité-là.
Ouais. Et donc, la conception, ça veut dire le savoir-faire du maçon. C'est ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure, Madiana Azoumé.
Tout à fait. Le savoir-faire et du coup, la formation de ceux qui mettent en œuvre, ceux qui font la fabrique du bâtiment aujourd'hui. Surtout quand on parle de bâtiments en terre, c'est vrai que ce sont des... en Afrique subsaharienne, le bâti vernaculaire est en terre. Donc on peut penser que ce sont des savoir-faire qui existent ou qui ont existé, sauf que ces savoir-faire se sont perdus. La particularité pour moi de la construction en béton, qui a une construction qui est arrivée avec la colonisation et qui a une construction qui est vraiment rentrée dans nos mœurs et qui est relativement facile parce que le béton, c'est un bâtiment, c'est un matériau qui tient. Il y a beaucoup de facteurs de sécurité, je ne sais pas. Donc, en fait, il tient. Pour qu'il se casse la figure, pour qu'il tombe, il faut vraiment qu'il soit très mal mis en œuvre. Donc, à partir de ce moment-là, ce que je veux dire, c'est que cette facilité qui est liée au béton ne sert pas les nouveaux matériaux de construction qui exigent plus de rigueur. Et donc, le savoir-faire, le manque de savoir-faire est d'autant plus criant, en fait. Parce qu'il faut de la rigueur. Et cette rigueur, on l'a perdue quelque part avec la facilité qui vient avec le béton.
Vous l'avez compris, on parle maçonnerie aujourd'hui chez 7 milliards de voisins avec nos invités Armelle Choplin, Madiana Azoumé, Doudou Dem, qui est en direct de Dakar. Et vous nous téléphonez au 33 7 64 45 51 41. On donne la parole à Diaby, qui est à Bamako, au Mali. Bonjour Diaby.
Bonjour, madame.
Diaby, alors vous avez une question. Vous habitez dans un immeuble, hein, dans un appartement, c'est ça?
Oui, j'habite dans un appartement à Bamako, 80 logements.
Ouais.
Voilà, donc pour ceux qui connaissent Bamako et le Mali.
Vous êtes au deuxième étage?
Oui, je suis au deuxième étage.
Et vous souhaitez nous poser une question concernant la chaleur. Vous êtes locataire, hein, je crois.
Oui, je suis locataire dans cet immeuble de 4 étages. Donc, ma question, c'était de savoir, pour poser à l'architecte, comment est-ce qu'on pouvait trouver une solution pour réduire la chaleur dans ces maisons que nous habitons. Parce que c'est en béton, bon, il fait vraiment chaud, vraiment à l'intérieur.
Donc, vous vous demandez comment réduire la chaleur, c'est-à-dire peut-être améliorer l'isolation des murs. Qui est-ce qui pourrait répondre à cette question, Madiana Azoumé, sur l'isolation d'une construction qui est déjà terminée?
Oui, au-delà de l'isolation, je vais parler de la conception bioclimatique. C'est vraiment cette conception bioclimatique qui va permettre au bâtiment de respirer, qui va permettre d'avoir la ventilation adéquate, une ventilation sans énergie.
Sans climatisation,
sans énergie électrique. Donc la conception bioclimatique est très très importante. C'est une conception qui va d'abord exploiter tous les atouts bioclimatique du site. Donc,
c'est-à-dire que bioclimatique, c'est-à-dire qu'on fait circuler l'air.
On fait circuler l'air, on profite du soleil. Voilà, on prend tout ce qui est naturel et on l'exploite au maximum. Et une fois qu'on a fait ça, sur un bâtiment en ciment, quand la conception est bioclimatique, le bâtiment respire mieux et on aura moins de chaleur.
Y compris pour un bâtiment en ciment.
Tout à fait.
On donne la parole à un auditeur qui nous appelle, qui est architecte, qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41, puisqu'on parle construction, maçonnerie et ciment, surtout qui est omniprésent sur le continent africain. Léobard est en ligne avec nous. Bonjour, monsieur.
Bonjour, Emmanuel, et bonjour à tous les voisins l'architecte.
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à la question de notre auditeur qui se plaint d'habiter dans un appartement au deuxième étage à Bamako, dans lequel il fait une chaleur folle? Comment diminuer la chaleur?
Vous savez, le béton a toutes les qualités, mais le béton est inadapté en Afrique, sous les tropiques, là où il fait très chaud. Parce que quand il fait chaud, il fait très chaud dans un bâtiment en béton, et quand il fait froid, il fait très froid dedans. Avec la tôle par-dessus, vous voyez, quand il pleut, on ne s'entend plus et il n'y a aucune isolation thermique avec la tôle. Donc, le système actuel de construction qui se répand en Afrique, le tout béton carrelé ou tôlé, est non seulement inadapté, mais aussi inaccessible aux populations. Parce que pour produire le ciment, il y a une dépense folle d'énergie qu'on utilise pour polluer en plus l'environnement. Alors que cette énergie aurait pu être utilisée pour produire des vivres, pour produire des biens nécessaires aux populations. Le développement de cimenterie, oui, c'est bien, mais ce n'est pas un matériau local, car le ciment contient beaucoup d'ingrédients toxiques qui sont non seulement toxiques pour l'environnement, mais toxiques aussi aux habitants.
Alors,
de la maison.
Vous nous parlez toxicité, mais vous nous parlez aussi prix. On ne va pas tout mélanger. Armelle Choplin, vous avez rencontré sur le terrain des gens qui ont renoncé, par exemple, à faire un toit en paille avec des matériaux naturels, alors que la paille est accessible à quelques kilomètres, parce que la tôle revient moins chère. Est-ce que c'est la même chose, par exemple, pour le ciment ou pas, Armelle Choplin ?
Oui, alors en fait, l'ouverture de toutes ces cimenteries ces dernières années a considérablement fait baisser le prix du ciment, même s'il reste plus cher en Afrique qu'ailleurs, hein, il faut quand même le dire. Donc ce qui du coup en fait un bien de consommation presque courant, et même il est subventionné par pas mal d'États. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, vouloir construire avec les matériaux dits locaux, la paille, le bois, etc., c'est compliqué et c'est souvent plus cher. Mais ça pose quand même, là, les auditeurs qui nous ont appelés, il y a des questions. Le béton est certes vu comme un matériau durable, mais il faut savoir qu'en Europe, on en revient de cette question. On dit aujourd'hui qu'un bâtiment en béton va durer 50, 70 ans. Et on a vu l'effondrement du pont à Gênes en 2018 qui a montré l'obsolescence du béton. Et là, tous les bâtiments en Afrique, souvent, ils ont 20 ans, 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer dans 40 ans quand le béton va mourir? Vous voyez, il y a toutes ces questions qui se posent pour demain, plus les effondrements. Le monsieur de Bamako, là, il est au deuxième étage. Voilà, aujourd'hui, on a énormément d'immeubles qui s'effondrent parce qu'ils ne respectent pas les normes. Juste un point. Et souvent, les carrelages aussi autour des murs, là, pour le monsieur, il faut absolument arrêter de mettre le carrelage pour couvrir, comme on fait à Dakar, par exemple, parce que ça retient l'eau, l'humidité, et ça alourdit encore plus la chaleur dessus. De même que les dalles en goudron qu'on met souvent sur les toits pour qu'ils soient complètement imperméables. Alors ça, un toit en goudron, ça renforce, si vous voulez, ce que le béton a de pire en conservant la chaleur.
Oui, parce qu'en plus, c'est noir.
Exactement, ouais. Donc ça conserve la chaleur.
Une question de Daniel à Bingerville, en Côte d'Ivoire. Il faut construire les maisons en ciment, même si j'adore et préfère les maisons en bois, mais les forêts disparaissent, donc les briques de ciment, c'est bien. Mais finalement, quel matériau choisir et qui résiste au feu, pose Daniel comme question. On voit bien qu'on a beaucoup de nos auditeurs quand même qui sont perplexes et qui commencent à se poser des questions sur les matériaux de construction. Qui veut répondre à cette question, Léobard ou Doudoudem?
Léobard,
oui, allez-y et Doudoudem ensuite.
Alors, en fait, l'idée, je pense que c'est pas de privilégier un matériau ou un autre. L'idée, c'est de vraiment réfléchir l'architecture localement en fonction des matériaux que l'on a. L'idée, c'est vraiment de ne pas standardiser comme le fait le béton, où on fait partout la même chose et on exploite les mêmes ressources. L'idée, là, c'est de produire à chaque fois un matériau local en fonction de la terre que l'on a, en fonction des fibres que l'on a, du bois que l'on a, de la matière première que l'on a. Ben on va déterminer son architecture et on va construire avec ces matériaux-là.
Les maisons que vous construisez pour vos clients, qui sont souvent des particuliers, Doudoudem, au Sénégal, elles coûtent combien de plus qu'une maison lambda équivalente en ciment quand vous construisez avec des briques de terre?
Alors, Ça aussi, c'est un préjugé que les gens ont. Alors, on a effectivement un ciment qui, au Sénégal, coûte relativement pas cher. Il coûte cher, hein, mais il ne coûte relativement pas cher parce qu'on a 3 cimenteries. Et en fait, lorsqu'on va comparer un bâtiment avec les briques de terre que l'on va utiliser et un autre bâtiment totalement en ciment, nous, on va arriver à être très compétitif. On va être un peu moins cher essentiellement parce qu'on a moins de finition sur les murs en terre. Sur un mur en béton, vous avez les enduits des deux côtés. Nous, on peut économiser les enduits. Mais l'idée aussi, c'est de dire, les murs, en fait, on se focalise sur les murs, mais les murs, c'est 10 à 15% du prix du bâtiment. Donc, ce n'est pas là-dessus que l'on va faire une économie réelle sur le prix du bâtiment. Mmh. Lorsque vous gardez une toiture en béton et des fondations en béton, bah, le mur ne va pas déterminer le coût de votre bâtiment. Mmh. Si vous voulez vraiment baisser le coût de votre bâtiment, c'est vraiment réfléchir globalement le bâtiment. Donc, c'est toute la philosophie qu'il faut revoir. Toute l'architecture, toute la conception. Donc, tant que l'on reste sur la même vision du bâtiment, avec une dalle en béton, des fondations en béton, de toute façon, on ne changera pas le prix.
Mais si ce n'est pas les murs qui coûtent cher dans une maison, qu'est-ce que c'est alors?
Alors, c'est souvent la toiture, les fondations et les finitions.
Les
Donc
finitions.
Aujourd'hui, les finitions essentiellement. Les finitions peuvent coûter le même prix que le gros œuvre.
D'accord, restez en ligne avec nous, hein, Doudoudem. Ousmane veut intervenir au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Ousmane.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes aussi à Dakar. Vous êtes entrepreneur en génie civil et constructeur et vous posez une question sur les briques de terre.
Oui, au fait, bonjour à tout le monde. Bon, Doudoudem, c'est quelqu'un que je connais bien par rapport à ce qu'il fait. Et bon, c'est bien super le béton et tout. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la principale contrainte qu'on a par rapport à ce que fait Doudou, c'est l'accessibilité de sa technologie, c'est-à-dire l'accessibilité de ses briques. Alors, c'est par exemple, nous, on a des projets en cours avec des architectes qui sont fixés, je veux dire, qui se sont vraiment orientés en BTC, c'est-à-dire les briques de terre compressées que font Doudou Dem. Mais malheureusement, c'est la disponibilité et l'accessibilité.
Oui, bah c'est sûr qu'il n'y a pas l'équivalent de trois cimenteries comme au Sénégal en briques de terre, Doudou Dem.
Exactement. Ouais.
Donc là,
tout à fait. Notre capacité de production, elle augmente, on va dire, mais effectivement, nous ne sommes pas aujourd'hui capables de fournir tout le Sénégal si tout le monde voulait construire en BTC. Ouais. Mais après, l'idée, c'est que, bien sûr, il faut d'autres entreprises, il faut d'autres personnes qui produisent ce type de matériaux, mais il faut aussi de la commande, il faut aussi que les gens les utilisent bien, c'est surtout ça qui est important. Utiliser le matériau juste pour l'esthétique, c'est vraiment pas le but. Il faut que ça soit bien conçu, bien utilisé pour que ça soit efficace.
Oui. Que ça soit confortable, hein, évidemment, et pas trop cher. C'est ce que veulent les auditeurs, on le comprend dans leur message. Hein, que ça soit pas une fournaise, évidemment, qui est un vrai avantage par rapport au béton où les gens ont tellement chaud. Et se retrouvent d'ailleurs la plupart du temps, Armel Choplin, vous le décrivez bien dans votre livre, à dormir dehors alors que leur maison est toute neuve et qu'ils ont mis tellement d'argent à construire leur maison.
Oui, exactement. Je pense que cette question des briques en terre crue et compressée qui est une des solutions, hein, elle doit aussi être subventionnée, comme des États peuvent subventionner certains gouvernements le prix du ciment. Donc c'est un processus long, hein, de prise de conscience. C'est un processus aussi lié aux travaux des architectes comme Francis Quéré aujourd'hui qui produisent des bâtiments en bois, montrent une autre voie possible. Donc voilà, le jour où il recevra le Grand Prix international d'architecture, il y aura peut-être aussi des changements qui viendront par là. Et puis il y a des réseaux, hein, qui existent. Je mentionne FACT Sahel Plus, qui est un réseau qui met en commun des entrepreneurs, des étudiants, des maçons, qui échangent en fait ce qu'ils produisent en Afrique de l'Ouest. Voilà, aussi d'autres manières de produire et de se dire que c'est possible. Mais ça demande aussi un accompagnement politique et économique.
On arrive bientôt au terme de cette émission. Je voudrais qu'on passe la question de cet auditeur qui est maçon et qui nous a posté un message sur notre WhatsApp. Écoutez-le.
Salut les voisins, je m'appelle Ablaye, un Sénégalais qui vit à Nouakchott, en Mauritanie. Je suis un carreleur. J'ai quelques questions à vous poser. En sachant que le ciment est un produit chimique et polluant, pour nous qui y travaillons tous les jours, peut-on avoir peur pour notre santé? La deuxième question, nos métiers qui dépendent du ciment, à savoir principalement le carrelage, et la maçonnerie, sont-ils menacés dans l'avenir? Et si tel est le cas, quel est le conseil que vous nous donnez? Merci, je vous remercie.
Et merci pour votre message, Ablaye. Je voudrais laisser la parole à cet auditeur, Léobard, architecte au Bénin. Léobard, vous avez tout à l'heure parlé effectivement des méfaits du ciment pour la santé. On ne va pas y revenir d'abord parce qu'il faudrait l'intervention de médecins comme chez Priorité Santé. Mais bien sûr, on fait allusion aux poussières, hein, de ciment, mais au même titre que la poussière du bois aussi, hein, peut être toxique. Mais sur ce qui est la question que pose notre auditeur sur l'avenir des maçons demain, si on commence à remettre en question le ciment, qu'est-ce que vous répondriez, vous, en tant qu'architecte?
Oui, en tant qu'architecte, je voudrais dire qu'il y a des matériaux qu'on peut développer très facilement, c'est la terre compressée. Cette terre est disponible dans tous les pays, avec des bâtiments qui auront des fondations en pierre, par exemple. Ces pierres sont disponibles partout. Même pour faire les routes, on pourrait les faire en pierre, au lieu de déverser du goudron.
Disponible à l'état brut, mais pas distribué et transformé comme les filières du ciment, on vient de le dire.
C'est les industries que nous devons mettre en place pour extraire. Il faut juste se baisser pour extraire ces matériaux qui sont disponibles en quantité et en qualité. Je veux dire, des pierres de toutes les sortes jusqu'au marbre.
Ousmane, qu'est-ce que vous répondriez, vous, en tant qu'auditeur, pour répondre à la question de ce maçon qui se demande ce que va devenir son métier?
Le maçon,
Ousmane.
Il y a des reconversions, les briques de terre sont suffisamment
disponibles. Laissons la parole à Ousmane, si vous voulez bien, Léobard.
Oui, en fait, bon, je ne suis pas médecin dans la mesure par rapport à sa question, mais bon, disons, si c'est concernant sa santé et tout, le principal problème...
Non, sur l'avenir de son métier en tant que maçon.
Bah, bon, en fait, Moi, je suis sûr et certain d'une chose, c'est qu'on ne sait pas maintenant qu'on va s'en débarrasser du ciment. Parce que par A ou par B, qu'on continue à les construire, si demain tous les architectes se mettent à créer ou à faire des projets comme BTC, par A ou par B, on aura toujours besoin de ciment et de béton.
Eh ben, c'était le mot de la fin. Merci à vous tous. D'abord pour vos nombreux messages, les voisins, puisque c'est vous qui faites l'émission chaque jour. Et merci à tous nos invités. Madiana Azoumé, ingénieure fondatrice de l'agence d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'éco-construction Cube. Merci à Armel Choplin qui publie La vie du ciment en Afrique, matière grise de l'urbain. Merci à Doudou Dem, ingénieur créateur de Élémentaire, une entreprise qui est basée à Dakar. Et demain, 7 milliards de voisins, nous donnerons la parole aux enfants illégitimes. Comment se construire lorsque l'on est ignoré par son père? Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, ce sera le journal. Juste après, allez, on termine avec cette histoire de vie très poétique. Benabar, quatre murs et un toit.
Un terrain vague de vagues clôtures, un couple qui vague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre et celui de nos enfants corrige la femme enceinte. Les travaux sont finis, du moins le gros œuf, ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute neuve. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond, le bébé est né, il joue dans le salon. On ajoute à l'étage une chambre de plus, un petit frère est prévu pour l'automne. Dans le jardin, les arbres aussi grandissent, on pourra y faire un jour une cabane. On pourra y faire un jour une cabane. Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant, on remplit sans se douter le grenier doucement. Le grand habite le garage pour être indépendant, la cabane, c'est dommage, est à l'abandon. Monsieur rêverait de creuser une cave à vin, madame préférerait une deuxième salle de bain. Ce sera une deuxième salle de bain. Les enfants vont et viennent chargés de linge sale, ça devient un hôtel, la maison familiale. On a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut et des chambres d'amis, les enfants sont partis. Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment, petit à petit, et vêtements par vêtements. Petit à petit, et vêtements par vêtements. Ils habitent à Paris des apparts sans espace, alors qu'ici, il y a trop de place. On va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué, dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Les petits enfants espérés apparaissent, dans le frigo on remet des glaces. La cabane du jardin trouve une deuxième jeunesse, c'est le consulat que rouvrent les gosses. Le grenier sans bataille livre ses trésors, ses panoplies de cow-boy aux petits ambassadeurs qui colonisent pour la dernière fois la modeste terre promise, quatre murs et un toit. Cette maison est en vente, comme vous le savez, je me présente, agent immobilier.
Je dois vous prévenir, 7 milliards de voisins, c'est presque fini. Merci à l'équipe qui prépare cette émission. Delphine de Dianous qui accueille les auditeurs, qui accueille vos appels tous les jours. Juliette Brault, Romain Dubrac, Didier Cherouz étaient aussi avec nous pour la liaison avec les auditeurs. Et vous retrouvez toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement.